Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir dans nos studios Alex Pomato. Alex Pomato, c'est notre chroniqueuse, formatrice aux questions de genre et de sexualité, qui travaille notamment avec l'association L'Œil du Loup, mais aussi avec de nombreuses autres associations, toujours dans cette idée voilà, de transmettre, d'apprendre, toujours autour de questions de genre et de sexualité. Et elle a son auto-entreprise FAGS.
FAGS, ouais,
je le prononce très mal, mais vous avez compris, FAGS, qui vient aussi travailler autour de ces questions d'éducation à la sexualité et au genre. Bon, bienvenue à toi, Alex.
Merci.
Alex, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, c'est ta deuxième ici chez Fréquence Mistral. Et aujourd'hui, je crois que tu voulais arriver avec un sujet assez fort.
Ouais, alors c'est pas un sujet très très drôle ou fun.
Ah, oui.
J'avais envie de parler de l'affaire Mazan, ouais. L'affaire Pellicot, je sais pas quel nom préféré.
Je crois qu'il y a eu un débat justement sur quel nom on devait lui donner. Même ça, ça a été une source de débat, je crois, pas mal.
Mais je me souviens plus de la conclusion.
De ce que j'ai lu dans les médias, l'affaire Mazan, c'est le village où ça a eu lieu, et Pellicot, c'est le nom du mari, c'est ça ?
Et de la femme aussi.
Et de la femme, mais elle porte le nom de son mari, si je dis pas de bêtises, ok. Donc c'est ça, je crois, du coup, il y avait une divergence.
Elle, je crois qu'elle est plutôt ok pour qu'on utilise son nom, en tout cas, l'affaire Mazan ou l'affaire Pellicot.
Oui, voilà.
On a compris de quelle affaire on voulait parler. Donc juste avant toute chose... vous vous en doutez, du coup, on va aborder un sujet très compliqué, très difficile. Donc si quelqu'un qui écoute, là, tout de suite, ne se sent pas à l'aise avec le sujet ou si le sujet vous met mal, même si je ne vais pas parler des détails gore ou glauques, je vous conseille de ne pas écouter. Parce que c'est vrai qu'on va dire des mots un peu compliqués et ce n'est pas forcément...
D'être peut-être dans un état, en tout cas, mental assez à l'aise ou en tout cas pour...
Voilà, c'est ça.
Pas, si vous êtes, vous vous sentez en fragilité, c'est peut-être pas le moment de l'écouter, c'est ça.
C'est ça, parce que c'est pas un truc très réjouissant et ça peut mettre mal potentiellement.
Oui, bien sûr.
Pourquoi j'avais envie de parler de ça ? Parce que ça me rend ouf depuis plusieurs mois maintenant, comme beaucoup de gens, bien sûr. Ça me rend ouf en soi l'affaire, mais aussi tout le traitement médiatique, d'entendre certains arguments des avocats de la défense. Enfin, il y a plein de choses qui me rendent ouf. Je vais pas pouvoir parler de tout. On va pas pouvoir parler de toute l'affaire non plus. J'avais juste envie d'extérioriser 2-3 trucs avec vous et d'arrêter de m'énerver seule derrière mon ordi et de manquer de casser mon clavier. Donc, j'extériorise quelques trucs.
Mais on est content que tu viennes le faire. On a une radio libre associative et c'est aussi pour ça que c'est fait. C'est pour laisser la voix à ceux qui parlent peu ou qui ont envie de casser leurs ordinateurs des fois.
Super, merci. Alors, donc, l'affaire des viols de Mazan, pour rappel, ce sont 51 hommes accusés et 30 en plus qu'on recherche d'ailleurs, d'avoir violé Madame Gisèle Pellicot, qui était inconsciente car droguée par son mari Dominique Pellicot. Dominique Pellicot qui orchestrait la venue de ces hommes pour violer sa femme, et ce, sur 10 ans. Le procès est ouvert depuis le 2 septembre à Avignon et devrait se terminer mi-décembre à peu près. Il a un retentissement international. Il y a des journalistes de partout, il y a la presse britannique, italienne qui viennent sur place. Enfin, il y a plein de... C'est ce que tu me disais juste en off à l'instant. Tu disais que c'était quoi ?
C'est le procès le plus suivi dans le monde depuis les attentats du 13 novembre, donc le procès du 13 novembre. Donc c'est un procès qui est extrêmement suivi dans le monde entier. Et pas seulement en France, même si c'est un très gros sujet en France aussi, mais voilà, le monde entier a les yeux sur ce procès actuellement.
Ouais, et il a un impact énorme sur la société. Il pose plein de questions concernant les violences sexuelles, les rapports de genre et la culture du viol, ce qu'on appelle. On a entendu par exemple que c'était le procès de la masculinité, ce qui a fait péter un câble à pas mal de personnes. Il y a aussi eu Karim Rissouli, je sais pas si vous le connaissez, qui est journaliste chez France 5, qui s'en est pris plein la gueule après avoir dit par rapport à l'affaire qu'il avait honte en tant qu'homme. Il a dit « On prend collectivement conscience que notre façon d'être des hommes dans ce pays, depuis des décennies, voire des siècles, elle a des conséquences. » Et ça, ça n'a pas plu du tout à plein de gens, notamment Eugénie Bastier, qui a répondu sur X, sur Twitter. « Le vigile qui a permis l'arrestation de Dominique Pellicot en poussant les femmes du magasin à porter plainte était aussi un homme ordinaire. » Donc parce que dans l'histoire, c'est d'abord un vigile qui a fait ça, comme ça qu'on a trouvé, que les policiers ont recherché et ont découvert ce que Dominique Pellicot faisait.
Oui, qui a aussi poussé la personne qui a été filmée à porter plainte. C'est ce qui a permis aussi, c'est parce qu'il y a eu une plainte. Hein, donc il faut le rappeler, des fois, une simple plainte, ça peut pousser ou en tout cas faire tomber des personnes.
C'est ça. Donc elle prend le seul gars de l'histoire qui a eu un comportement normal, louable, mais normal, comme argument pour dire « not all men ». Moi aussi, une fois, mon père, il m'a offert une pizza. Pour autant, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de systémique dans les violences sexuelles. Mmh. On a vu sur les réseaux sociaux des personnes écrire « Not all men, que 51 ». Ça, ça m'a rendu ouf aussi. Mmh. Il faut quoi pour reconnaître, pour que ces gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de structurel dans la violence sexuelle? Je pense que la prochaine affaire, il faut qu'il y ait quoi, 1500 hommes qui ont violé une femme pour que peut-être quelqu'un reconnaisse qu'il y a quelque chose de systémique. Ouais. C'est quoi le chiffre suffisant, en fait, pour qu'on reconnaisse ce truc? Enfin, je sais pas. C'est quoi le palier qu'il faut... Enfin... Bon, bref. Pourquoi on dit que c'est systémique, en fait? On sait que la plupart des victimes de violences sexuelles sont des femmes en France, et on pense qu'on sous-estime aussi la part des hommes victimes. Il y en a sûrement beaucoup plus que ce qu'on sait, on pense. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que l'énorme majorité des auteurs de violences sexuelles, ce sont des hommes. 98% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Les violences sexuelles ne viennent pas de pulsions naturelles qui sont présentes chez les hommes, ça on le sait. C'est pas des pulsions de sexualité, voilà. Ça vient, en fait, dans la majorité des cas, c'est une histoire de domination et pas une histoire de sexualité. C'est une histoire de construction sociale, de phénomène de société, plutôt qu'une histoire d'ordre naturel immuable. Ça, c'est ce qu'on dit. En fait, il y a plein de concepts en sociologie qui nous montrent ça, que les violences sexuelles sont systémiques. Je vais en présenter juste très rapidement trois. Il y a ce qu'on appelle la culture du viol. Ça, c'est un concept qu'on connaît de plus en plus, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, c'est tout ce qui est de l'ordre culturel qui tend à culpabiliser les victimes, genre des phrases comme « elle l'a bien cherché »,« t'as vu comme elle s'habille, faut pas s'étonner », ce genre de trucs-là, qui culpabilisent les victimes, qui les rend responsables de ce qui leur est arrivé. Et c'est aussi la déculpabilisation des auteurs.
Et c'est vrai que, alors je me permets une intervention, mais quand on regarde les films, moi je sais que j'ai revu un film à l'ancienne avec Depardieu il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on se rend compte que, mais pas forcément que Depardieu, hein, tous les acteurs, comédiens et les films de cette époque, il y avait des comportements normalisés qui aujourd'hui sont choquants parce qu'on a le filtre justement de tout ce qui est consentement, viol et tout, mais où la société entière était d'accord qu'une main aux fesses, forcer une fille au départ, c'était quelque chose de... Donc il y avait quand même quelque chose de culturel où on indiquait que c'était une manière de faire et que c'était une manière de faire convenable, entre guillemets.
Carrément. Tu parles de ça, on a aussi l'exemple de Star Wars, le baiser forcé, en fait, entre Han Solo et Leia.
Oui, Leia, c'est oui, ça. Exactement. Ouais.
Et on pense souvent à des exemples anciens, mais en réalité, c'est récent aussi. Rien que dans Ratatouille, il y a un moment, un baiser qui est forcé. Oui. Dans Ratatouille, quoi, le truc. C'est un moment, le garçon qui veut embrasser l'autre, et du coup, le rat, il le fait pencher pour pouvoir embrasser de force la fille. Enfin bref, ouais. Voilà. Donc la fille est très surprise, elle n'avait pas pensé ça. Enfin voilà, donc c'est quelque chose... qui est vraiment culturellement, c'est vraiment la base, quoi. C'est culpabiliser les victimes, en gros, les rendre responsables de aussi ça, des juges qui, dans plein d'affaires, ont demandé comment était habillée la fille, si elle avait une jupe un peu courte, ben elle était en partie responsable, ou des trucs...
C'est dans l'affaire du viol de Gisèle Halimi, le procès du viol, pardon. Ouais. Quand on regarde, les victimes de viol, c'est les seules victimes où on vient enquêter sur elle, ouais, pour voir faire une enquête de mœurs, pour connaître la vie privée. Exactement. De la victime, et trouver dans la vie privée, si on trouve des, entre guillemets, des failles pour la défense, de dire ben, elle a eu ses pratiques sexuelles, donc en fin de compte, est-ce qu'elle n'avait pas...
Exactement.
Un peu cherché, quoi.
C'est ce qu'on faisait à ce moment-là avec Gisèle Halimi, mais en fait c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui avec l'affaire Pellicot. Là on va chercher dans le passé de Gisèle Pellicot
des photos dénudées d'elle qu'on a exposées,
des trucs qui pourraient expliquer, enfin c'est fou, et du coup, c'est aussi quand on culpabilise les victimes, mais aussi on déresponsabilise les auteurs. C'est aussi ça, la culture du viol. Un truc classique, mais moi, du coup, je fais de l'éducation à la sexualité. J'en avais pas la dernière fois. Et il y a une phrase que je pose souvent à des jeunes. On essaye de plus en plus de parler de choses cyber qui peuvent se passer sur les téléphones des jeunes ou quoi. Et quand je leur demande si une fille envoie un nude à son mec et qu'après, le mec diffuse le nude, qui est responsable? Et les jeunes me répondent toujours en grande majorité que la fille est responsable si jamais le nude est diffusé, parce qu'elle avait qu'à pas l'envoyer, etc. etc. Ouais. Ça, c'est typiquement un réflexe qui vient de la culture du viol. C'est pas autre chose, quoi. Ensuite, on a un deuxième concept, c'est l'objectivation du corps des femmes. Donc c'est l'idée que le corps des femmes est à disposition et déshumanisé. Enfin, c'est ce qui est véhiculé dans les pubs, dans la mode, dans l'art, dans le cinéma, dans un million de choses différentes. On va pas s'attarder dessus, je vais pas faire une chronique là-dessus, ça mériterait un million d'années. Là, dans l'affaire Pellico, c'est d'autant plus flagrant, parce que le mari a disposé du corps de sa femme comme il l'entendait, et tous les accusés avec, ils l'ont dépossédé de son corps et déshumanisé. Mmh. Et on a aussi, troisième concept, la socialisation genrée. Alors là, je sépare tous les concepts, mais en fait, tout est lié, bien sûr, hein, en sociologie. Enfin, il n'y a pas un truc qui mène à ça. C'est tous les millions de choses, tous les millions de faits sociaux qui vont créer des phénomènes de société, comme les violences ou les discriminations. Donc, la socialisation genrée, c'est tout ce qui nous construit en tant que filles ou garçons depuis notre naissance. Donc le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, les poupées pour les filles, les camions pour les garçons, etc., etc. Pareil, on pourrait citer tout ce qui existe dans la vie, donc c'est trop long. Mais dans le million de choses qui existent dans cette socialisation genrée, il y a la différence dans l'apprentissage des compétences psychosociales. C'est un mot qui paraît compliqué pour dire quelque chose d'assez simple au final. Les compétences psychosociales, c'est tout ce qui fait que tu vas développer la régulation de tes émotions, apprendre à pleurer ou à réguler sa colère, la frustration, pas taper sur quelqu'un, développer l'empathie, comprendre les autres, savoir régler des problèmes avec les autres. Tout ça, c'est les compétences psychosociales. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux filles à jouer à la poupée, à prendre soin des autres, l'empathie, et on leur apprend aussi à ne pas... On n'apprend pas forcément aux filles à s'affirmer ou à poser des limites. Et aux garçons, on leur apprend plutôt la compétition, tout ce qui est de l'affirmation de soi. Tous les jeux, en fait, pour garçons, c'est plutôt des jeux où ils se développent, eux, leur motricité et leur apprentissage. C'est beaucoup les jeux autour des compétences, comment dire, de travail. Enfin, c'est-à-dire des compétences dont on a besoin pour travailler ou pour être avoir une carrière. Enfin, voilà. Les filles, c'est vraiment plus autour des autres, et ce qui fait qu'on retrouve majoritairement les femmes dans les métiers du soin, évidemment, et les hommes dans les métiers de poste à responsabilité, ou voilà. Donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais pour dire, en gros, on apprend aussi l'empathie, le soin des autres, et les garçons à s'affirmer, il y a pas assez l'empathie, pas assez l'écoute, pas assez le soin. Comment prendre soin ? Enfin, même là, donc, quand on pense à notre entourage, qui prend soin généralement des autres ? Qui pose des questions intimes ?
Mais moi, je trouve ça flagrant. Je me permets d'y inclure un peu de personnel, mais je reviens de vacances au Maroc où mes copains m'ont lâché, entre guillemets, et je me suis retrouvé avec les copines de ma copine. Du coup, il y avait trois filles et moi pendant les vacances, et c'est vrai que j'étais estomaqué de leur capacité à exprimer leurs sentiments, leurs états émotionnels, presque tout le temps, alors que je me suis dit, mais moi, avec mes copains, jamais de vie, moi, j'ai jamais vu presque un ami pleurer. Hein. Et là, pendant la semaine, à un moment, on parlait à table pendant un restaurant, on parlait d'une copine à elle, et il y en a une qui s'est mise à pleurer. Je me suis dit, elle va mourir. Mais non, en fait, juste, elle allait pas bien. Et elle pleurait pour sa copine qui allait pas bien. Et moi, je me suis dit, mais pour moi, c'était de la science-fiction. Et c'est vrai que j'en parlais avec mes potes après. Je leur disais, mais à quel moment, nous, on vient se dire ce genre de choses ? Nous, jamais, on est dans cette bienveillance qu'elles avaient, qui moi me paraissait presque fake, parce que je suis tellement pas habitué à vivre ça que des fois ça me paraissait être trop, et j'arrivais pas à comprendre la formation qu'il faut pour arriver à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une distance entre ce qu'on peut vivre dans un groupe de mecs et ce qu'on peut vivre dans un groupe de femmes. Alors c'est pas tous les groupes de femmes pareil, c'est pas tous les groupes, il faut pas généraliser, il faut nuancer, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'a énormément surpris, en tout cas, et c'est vrai qui vient de l'éducation, en tout cas de la société, c'est certain, parce que ça vient pas de nulle part, quoi.
Ouais, et pareil, dans l'extériorisation des émotions, très souvent, moi, quand je vois les jeunes, je leur demande si un garçon... est-ce que c'est courant qu'un garçon pleure ? Est-ce que c'est plus les filles ? Évidemment qu'ils me disent que c'est plus les filles, et que si un garçon pleure, c'est ridicule. Je leur demande, du coup, leurs émotions, ils transforment en quoi, à votre avis, leurs émotions de tristesse ou quoi ? Tout de suite, le réflexe, c'est la rage, la colère.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, de transformer ces émotions ou de les retenir, de les refouler, c'est pas bon pour la santé. On le sait que c'est mauvais pour la santé. C'est ce qui crée plein de problèmes et ce qui notamment crée les violences. Toutes les violences physiques, les victimes de violences physiques dans l'espace public, par exemple, majoritairement, ce sont des hommes. Mais les auteurs, ce sont des hommes aussi.
Ouais.
La majorité des violences en général dans la société, tout type de violence, ce sont des hommes. Ouais. Et ça, on fait un lien entre les compétences psychosociales et ça, le développement des compétences psychosociales, le fait de ne pas apprendre à réguler ses émotions, de ne pas apprendre à s'exprimer, à écouter l'autre, l'empathie, etc. En fait, il faudrait juste que tout le monde puisse être éduqué de la même manière avec toutes les compétences psychosociales.
Ouais,
que les filles apprennent à s'affirmer, et que les garçons apprennent à écouter et à extérioriser des émotions ils n'ont pas le droit aussi.
Non, mais je pense qu'on a tous été... Mais même que ce soit femme ou homme, je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie, de ne pas réussir à exprimer quelque chose, ou en tout cas d'avoir la sensation d'être incompris. Et de cette incompréhension, on est la colère.
Bien sûr.
Après, comme dit
Bien
Maître sûr. Yoda, colère mène à la... Au côté obscur, hein, mais...
Bien sûr.
Je suis désolé, je voulais faire une référence à Star Wars, pardon.
Oui, oui, deux fois Star Wars.
Ah, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est spécial.
Et ça joue bien évidemment aussi dans les relations à la sexualité. Donc, manquer d'empathie et de ne pas reconnaître le consentement chez l'autre, c'est quelque chose qu'on observe en majorité aussi chez les auteurs de violences en général, qui sont en majorité des hommes, du coup, comme on disait. Donc, c'est aussi et surtout comment on éduque les garçons et les filles qu'on doit changer, en fait. C'est notre manière d'éduquer les garçons et les filles qu'il faut absolument changer de manière urgente. Un truc qui me fait, du coup, péter un câble quand j'entends dans des émissions sur l'affaire Mazan que questionner la masculinité et son impact sur les violences sexuelles, ça serait essentialiser les hommes. Ça me rend barge parce qu'en fait, c'est l'inverse total.
Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est qu'essentialiser ?
Justement, en fait, essentialiser, c'est naturaliser. C'est en gros rendre le truc à l'essence, à la nature de l'homme ou de la femme. Ça serait dire, tu vois, naturellement, les hommes sont comme ça. En fait, nous, justement, on cherche à faire l'inverse. À dire, non, justement, on désessentialise, on dit que c'est construit.
Oui.
C'est pas
dire les hommes sont comme ça, c'est dire la société produit des hommes qui sont comme ça.
Exactement.
Non, ça n'a rien à voir.
Ça veut dire les hommes sont comme ça à cause d'eux. Donc, je demande à toutes les personnes qui ont dit ça sur des plateaux télé, même si elles m'entendront jamais, mais je demande quand même, de brancher leur cerveau, parce que je pense que tout le monde est capable d'y arriver et de comprendre le truc. L'essentialisation, ça serait de dire que c'est quelque chose de naturel et d'inné chez les hommes, et on dit l'inverse, que c'est quelque chose de construit, de social, et que c'est donc pas immuable, et qu'on peut changer ça.
Oui.
On peut changer ça si et seulement si tout le monde fait un effort, et si on s'intéressait plus à la sociologie et aux études de genre aussi. Bon, bref, je suis un peu énervée, pardon.
Mais ta colère est légitime, donc t'es là pour l'exprimer. Hein.
Oui. Un autre truc qui m'a beaucoup énervée, c'est quand j'ai vu certains plateaux télé avec des expertes des questions de genre qui sont invitées, qui décrivent certains concepts sociologiques, ce que je viens de dire là juste très rapidement, et qui sont mises face à face, à égalité, avec des personnes qui n'y connaissent rien aux questions de genre, qui ne sont expertes en rien du tout, mais qui font juste partie des hautes sphères et qui ont publié un essai de sortir de derrière les fagots sur le masculin ou quoi ou qu'est-ce. Je ne veux pas dire que ces personnes-là ne devraient pas donner leur avis. Elles ont le droit, et heureusement. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on donne plus de crédit à la sociologie, l'anthropologie et aux études de genre, qui sont des sciences, qui ne sont pas des opinions sorties de nulle part, et qu'on reconnaisse à ces personnes une forme d'expertise particulière.
Oui, mais oui.
Parce que ça me rend ouf.
Un bisou Bernard-Henri Lévy et compagnie, on comprend. Hein, C'est vrai que, et encore Bernard-Henri Lévy, même si je déteste, ça reste un philosophe, donc il a, on va dire, entre guillemets, ce bagage philosophique, mais c'est vrai que, alors là, je viens laisser m'exprimer ma colère aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'époque qui veut ça, c'est que typiquement sur les chaînes d'information, des fois on va venir parler d'un sujet, notamment on va parler de violence, de délinquance, etc., qu'on va toujours lier bien sûr à l'immigration, parce que ça fait les affaires de quelques politiques, et quand on va avoir typiquement un sociologue qui vient expliquer ça sous le prisme voilà, socio-économique, etc., on va mettre en face un polémiste, une écrivaine qui est liée à la famille Le Pen de je ne sais quelle manière, et qui vont venir donner leur avis et qui vont avoir la même légitimité, la même confiance en eux que la personne qui a mis des années à étudier la société, etc. Et ils vont dire des folies et on... avec la même assurance et le même crédit que, et l'animateur, le journaliste qui est là justement pour tempérer et équilibrer le débat, lui va faire comme si les propos tenus étaient... Mais c'est vrai que dans tous les domaines, on le voit et c'est vrai qu'il y a des envies de s'arracher les cheveux parfois. Hein.
On le voit et en fait, je vois aussi que ces personnes-là n'ont pas cette reconnaissance d'expertise. Elles sont présentées comme membres de telle association alors que c'est une personne qui a fait une thèse en études de genre sur tel truc. Donc ça m'agace, j'ai envie de dire. En fait, c'est des domaines scientifiques. C'est pas juste un truc qui plane, genre une opinion que tu penses. C'est des recherches. Enfin, c'est quelque chose qui est prouvé. Enfin, les études de genre, c'est pas... Souvent, on entend théorie du genre. Tu sais, c'est pas une théorie, c'est des études qui sont faites là-dedans. Donc, il y a des recherches, il y a tout un tas de... Donc,
et surtout, si jamais la personne a le malheur de s'énerver parce qu'elle se retrouve face à une bêtise sans nom, on va lui dire, mais arrêtez de vous énerver. Pourquoi vous avez de la colère? Vous êtes hystérique? C'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est...
Donc ça me rend ouf, mais bon. Dernière chose par rapport à ça, il y a Dominique Pilico, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit on ne naît pas pervers. Donc c'est l'accusé, le mari.
Oui. Le mari de Gisèle Pilico.
On ne naît pas pervers, on le devient. Cette phrase fait référence du coup à Simone de Beauvoir, qui est pionnière dans les études de genre et qui a dit dans son ouvrage Le Deuxième Sexe, publié en 1949, la citation on ne naît pas femme, on le devient. Mmh. C'est intéressant ce qu'il dit après. Moi, je sais pas, pervers ou pas, je suis pas psy, je peux pas dire si quelqu'un est pervers ou pas. Tout ce qui ressort, en tout cas, du procès, c'est que les accusés ont un problème, tous, avec le consentement. Il y en a qui ont maintenant conscience du fait d'avoir transgressé le consentement, ne pas respecté le consentement, et qui le disent, qui l'avouent. Et il y en a d'autres qui ne l'avouent toujours pas, ouais. Alors que c'est d'une évidence absolue. Tous les accusés ont un problème avec le consentement. On sait qu'en général, du coup, les hommes ont un problème avec le consentement. En tout cas, pas forcément tous les hommes, mais en tout cas, toute la socialisation fait que on va avoir un problème avec dans la gestion du consentement.
C'est un mot qui est assez nouveau en plus, hein, si on regarde. Alors, il a toujours existé le mot consentement, mais je veux dire, soit le terme, comme on l'explique, on le décrypte et ouais. Comment il est encore analysé, parce que c'est quelque chose qui évolue aussi, le consentement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites autour. C'est quand même quelque chose de nouveau dans la société. Donc, rien que le fait que ça soit nouveau, ça indique quand même. Parce que oui. Là, on est entre guillemets entre jeunes dans le studio, mais pour une personne de 50, 60 ans, quand on parle de consentement, c'est pas forcément aussi clair que ça. Moi, je vois avec les amis de mes parents, des fois, quand on en parle, il y en a plein qui ne comprennent pas complètement le sujet. Et même nous, on comprend. Enfin, moi, perso, je ne pense pas le comprendre dans son entièreté, parce qu'il y a plein de zones grises dans le consentement encore.
Oui, et il n'apparaît pas dans la loi, d'ailleurs. Il n'y a nulle part écrit concernant les histoires de violences sexuelles, le mot consentement dans la loi, d'ailleurs.
Moi, ma conjointe est avocate, et c'est vrai que c'est une grosse problématique, mais c'est une problématique parce que même aujourd'hui, le consentement, en fait, même les avocats ne sont pas forcément pour le mettre dans la loi, parce que c'est déjà tellement compliqué, les affaires de viol à juger. C'est très, très mal jugé en France. Hein. Il y a beaucoup d'avocats qui pourront en témoigner, mais en fait, rajouter la notion de consentement, ça rajouterait un niveau de difficulté qui fait que les avocats, ils ont peur qu'on s'en sorte jamais, que les accusés ou les victimes soient jamais libérées de ça, parce que c'est des notions très compliquées et on peut beaucoup jouer avec.
Carrément, en tout cas, je sais que c'est un débat où il y a les pour, les contre, et je sais pas comment me positionner par rapport à ça, mais ce que je sais, c'est que en tout cas, il risque d'y avoir des changements dans la loi, peut-être de manière, j'espère, positive, du coup, par rapport à l'affaire Pellicot, Mazan, parce que c'est pas... Enfin, les accusés, c'est flagrant, leur culpabilité est flagrante, et pourtant...
Oui, parce que ça a été filmé aussi, il faut le préciser, il y a des vidéos en plus.
En plus, il y a des vidéos, enfin bon. Et pourtant, peut-être que certains accusés vont être pas acquittés, peut-être pas, mais voilà, on verra, mais voilà. Donc peut-être que ça fera jurisprudence, on verra bien.
Et c'est un bel exemple... Ouais, pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Non, mais c'est un bel exemple, tu me passeras le terme, mais je sais que j'en ai discuté beaucoup avec les avocats. En fait, sur les 50 accusés, chaque avocat a, des fois certains avocats ont deux accusés, mais ils ont tous développé des stratégies de défense différentes. Et donc, ce qui est... entre guillemets, c'est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir toutes les stratégies défense d'un accusé de viol, et donc du coup on peut voir comment aujourd'hui dans la justice française on défend un accusé de viol, mais de toutes les manières, il y a tout le prisme à 360 de tout ce qu'on va citer, donc non, je savais pas qu'elle était pas consentante, j'avais pas bien compris, puis après on a tous les angles vraiment la vision.
Et ce qui est fou, parce que du coup, par exemple, j'ai vu un truc où dans toutes les questions qui sont posées, genre est-ce que vous saviez qu'elle était inconsciente, est-ce que vous saviez qu'elle était droguée par son mari, est-ce que vous saviez tout ça, ils répondent oui à chaque fois, et est-ce que vous saviez qu'elle était pas consentante, non.
Oui.
Alors que c'est évident que du coup c'est la suite logique, ça serait oui du coup, puisque tu viens de dire tout mais l'inverse.
C'est pour ça que c'est historique, c'est pour ça qu'il faut reconnaître le mérite de Gisèle Pellicot qui a accepté que le procès soit public et ouvert aux journalistes, etc. Parce que justement ça met un gros projecteur sur cette problématique de société qui était quand même très masquée jusqu'à maintenant.
Ouais. En tout cas, concernant tout ce qui est l'éducation au consentement, ce que auraient dû faire depuis tout petit tous les accusés et tout le monde en fait dans la société, c'est quelque chose qu'on essaie de porter avec l'association L'œil du loup sur Marseille. Du coup, on essaye de faire ça, l'éducation au consentement. Donc, on va dans les collèges, lycées parler de sexualité, éducation à la sexualité, mais on essaye aussi d'aller dans des écoles pour faire la promotion du consentement pour les petits. On a fait une boîte à outils là pour avec des activités pour faire que les enseignants puissent faire ces activités avec les petits sur ça, enfin sur le consentement, comment poser des limites, connaître le droit des enfants, connaître et aussi sur pour pas qu'il y ait de différence entre filles et garçons et éduquer aux émotions. Et ça, par contre, on a de grandes difficultés en fait à aller dans les écoles, etc. C'est les gens ont très peur de ce mot-là, et surtout quand on parle d'enfants, alors qu'en fait on vient pas parler de comment se masturber ou quoi que ce soit, ou de comment, enfin j'en sais rien, on vient parler de consentement, qui est un concept large et qui s'apprend aux enfants, enfin faut apprendre ça plus tôt, quoi.
Oui, mais effectivement, il faut le rappeler et le re-rappeler parce qu'il y a beaucoup de hoax et de fake news sur les réseaux sociaux. L'éducation à la sexualité pour les enfants, ce n'est pas parler de sexe ni de comment on fait les bébés, entre guillemets, enfin tout de suite. C'est surtout parler de consentement, c'est pas pour choquer les enfants ou quoi que ce soit. Ça permet à un enfant d'être conscient de quelles sont les limites de son corps, de comment éviter... typiquement les agressions sexuelles. On rappelle qu'en France, c'est un enfant sur cinq qui est victime d'agressions sexuelles, donc c'est énormissime. Et le but de l'éducation sexuelle, c'est de venir justement mettre, on va dire, une barrière, ou en tout cas d'essayer de changer de l'intérieur quelque chose qui est problématique, et tout aussi problématique d'ailleurs que les violences faites aux femmes.
Ouais. Tout est lié de toute façon.
Ouais. C'est systémique. C'est pour ça que systémique, il y a système, c'est un système en entier.
C'est ça. Juste pour finir sur une note un peu plus positive, parce que là, bon, il y a quand même des gens qui font des choses bien par rapport à l'affaire Pellico. Là, j'ai parlé de plein de traitements médiatiques qui m'ont énervé, mais j'ai lu des choses, j'ai vu des choses qui m'ont fait chaud au cœur. Il y a une tribune signée par 200 hommes qui propose une feuille de route contre la domination masculine. Mmh. Donc si vous tapez feuille de route sur la domination masculine, vous tombez là-dessus, où il y a une espèce de petit point, en fait, sur... des recommandations, un peu des questions que les hommes devraient se poser en tant qu'alliés, comment faire, etc.
Et on essaiera de mettre le lien en dessous du podcast.
Et il y a aussi, dans un post récemment, il y a eu Morgan Noam, mm-hmm. Cyril Dion et d'autres qui ont fait un post qui s'appelle « Not all men, mais combien d'alliés ?» Et en fait, c'est une collecte de dons pour la Fondation des fans. Donc en gros, c'est « si vous êtes alliés, aller donner pour la Fondation des Femmes qui sera reversée directement aux assos. Et juste petite recommandation sur les violences conjugales en soi. J'ai écouté il y a peu de temps un podcast qui s'appelle « Mais c'était un bon père ». Pareil sur les violences conjugales et leur systémie et comment en tant qu'enfant on reçoit ça et on peut se sortir de tout ça. Voilà.
Bah merci, c'était un sujet dur, mais tu l'as traité avec brio. Merci en tout cas, Alex, d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette affaire qui n'est pas terminée. Hein. Il reste encore quelques jours de procès, si je me trompe
pas. Oui, il reste quelques jours, un mois et demi. Et j'ai pas parlé des avocats de la défense et de leur défense, mais
c'est un très gros débat aussi, et c'est vrai que c'est une problématique qui est large. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on a vu sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de polémiques là qui ont émergé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui cristallise beaucoup d'une société. S'il est aussi suivi dans le monde, je pense que c'est aussi un moment pivot. Hein. Il y a un très bel. Enfin, j'invite les auditeurs auditrices à réécouter. Il y a une affaire sensible sur France Inter sur l'affaire du viol. Et le procès du viol de Gisèle Halimi qui a été un tournant et un pivot dans cette culture du viol et sur la manière qu'on avait d'appréhender le viol. Et de mon point de vue, c'est mon point de vue personnel, mais j'ai l'impression qu'on vit un peu le même pivot actuellement avec l'affaire Mazan ou Pellico et qu'il y aura un avant et un après. Alors ça ne veut pas dire que la société sera complètement différente derrière, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des recours en justice, il y aura une manière de traiter les faits, une manière aussi de voir les faits qui va changer. Donc de tout ce mal et de tout cette horreur, peut-être qu'il y aura du positif qui vont germer. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
J'espère.
Ouais. Bah, en tout cas, merci à toi, Alex.
Merci
On te
toi.
Retrouve prochainement pour une autre chronique autour toujours des questions de genre et de sexualité. Et on te souhaite bon courage pour changer de l'intérieur un système qui en a bien besoin.
Merci.
Allez, excellente journée à toi.